RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable du samedi et du dimanche matin en direct jusqu'à midi. Et cette saison, les GG vous régalent dès 9h en direct avec ce matin un énorme programme. Retour sur le festival de l'OM à Brest, 5 buts à 1 hier, première réussie pour Deserbi. Est-ce qu'il faut déjà s'enflammer 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant et participer au débat avec nos GG? À 11h, on ira à Madrid avant la première de Mbappé en Liga ce soir. Est-ce qu'il peut devenir encore plus fort au Real Madrid? Ce sera à 11h et à 10h, on va revenir sur les Jeux Olympiques. Avec cette question, l'athlétisme est-il le plus gros flop français des Jeux Olympiques? Sans oublier vos rendez-vous habituels, le zapping des GG, la punchline, ça sera Carlos Alcaraz aujourd'hui, et le débat caché que les GG vont découvrir en même temps que vous. Le 32-16 ouvert pour nous rejoindre, mais aussi le hashtag RMC Live et l'appli RMC Direct Studio pour laisser tous vos messages. Et aujourd'hui, une grande gueule qui, comme Roberto De Zerbi, il vaut mieux l'entendre parler de foot que de le voir jouer. Walid Acherchour, salut Walid.
Salut François, salut à tous.
C'est un peu méchant, je t'ai jamais vu jouer.
Non, ça va, je suis pas horrible non plus.
D'accord.
Pas à ce point-là.
Ok.
Mais bon.
C'était pas un aimant joueur, Roberto De Zerbi, c'est pour ça qu'on dit ça. Une grande gueule qui, comme Roberto De Zerbi, a trois passions dans la vie, le foot, Chris Waddle et les clopes. Simon Dutin, salut Simon.
Salut François, salut tout le monde. J'ai cru qu'elle était pour moi, celle pour Walid, et puis je me suis dit, mais attends, il se souvient quand même de tous les buts que je lui ai fait marquer.
Ah, voilà, c'est pour ça que j'ai pas osé.
Je te remercie, François.
En revanche, j'ai raison sur Chris Waddle.
Chris Waddle,
la
évidemment.
Cigarette, c'est fini.
Les clopes un peu moins que Chris Waddle, quand même. Mais j'ai du mal à arrêter, quand même.
Une grande gueule qui, comme Roberto De Zerbi, préfère désormais que ce soit les autres qui courent à sa place. Pierre-Ambroise Boss est là. Salut, Pierre-Ambroise. Attends, avec le micro, oh, c'est normal, c'est la première.
Oui, ouais, c'est la première. Désolé, les amis. Comment ça va, François?
Ça va, on est très heureux de t'avoir. Alors, c'est presque ta première dans les grandes gueules du sport. Je me souviens qu'on s'était vu il y a quelques temps au moment où tu annonçais ta retraite.
J'étais assis là, d'ailleurs.
Et je t'avais dit, tu ferais un super consultant pour RMC.
Ah merde, tu t'es voilà. Peut-être planté là. C'est... On va voir ça tout de suite. Non,
consultant, oui, super. Ça, c'est. Je laisse les auditeurs juger. Non, t'as été exceptionnel pendant les Jeux Olympiques sur l'athlé. Et on est ravis de t'accueillir dans les GG. Et puis, une grande gueule qui, comme Roberto De Zerbi, a dû se poser beaucoup, beaucoup de questions avant de signer son contrat ici. David Douillet. Salut, David.
Ça, c'est clair.
Tu t'en poses encore?
Ça va?
Oui, ça va très bien.
Non, pas du tout.
Bon, David, en tout cas, bon. Toi, tu es le seul ici, puisque c'est l'actualité, à avoir rencontré Alain Delon. Je pense que ni Walid, ni Pierre-Ambroise, ni Simon.
C'est vrai.
Voilà. Grand
c'est vrai. Et je peux souligner et affirmer que c'était un grand fan de sport. Il était assez incollable. Enfin, il avait une vraie culture sportive globale, pas que le foot. Et c'était quelqu'un qui admirait beaucoup les athlètes. Donc, on s'entendait vraiment bien, quoi.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que David Douillet est un monstre sacré aussi? Parce que tu sais, c'est l'expression.
Non, mais arrête, Simon.
Un monstre sacré.
C'est n'importe quoi.
C'est le monstre sacré des grandes gueules du sport, en tout cas. En tout cas, 9h11.
C'est ça, et ça me suffit bien.
On va lancer tout de suite. Et on va revenir sur un feu d'artifice. C'était hier pour Roberto et ses frères hier.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ouais, c'est parti avec l'ouverture du score. L'ouverture du score, le premier démarrage signé Greenwood. Penalty pour le Stade Brestois. C'est sorti et c'est même pas en corner en deux temps. Le portier marseillais qui arrête ce ballon.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
C'est vrai qu'il est au fond. Oh là là, la grosse erreur encore de la défense brestoise. Le pied droit face à Marco Bizot. C'est parti, c'est au fond. 3-0 pour Marseille après 31 minutes de jeu.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Penalty, ben oui, évidemment. Ça va trop vite pour Jordan Amavi. Et ça va être un nouveau penalty. C'est marqué, il est très bien frappé. Et ça fait 5-1 pour l'OM.
Et la victoire de l'Olympique de Marseille. Une belle, une éclatante victoire. 5-1 pour l'OM.
Écoute-moi.
Et oui, ce duo mythique, évidemment, Alain Delon avec Dalida. Pierre-Ambroise, tu peux chanter, hein, tu as le droit dans les grandes gueules du sport. Tu le fais, mais on t'entend pas assez, là, vas-y.
Avec l'accent, en plus, ça. Hein.
Pas mal.
On essaye.
Marseille s'est donc imposé 5-1 à Brest dans un match plutôt en ballon avec les doublés de Greenwood. Luis Enrique aussi a marqué son doublé. Un but de Wailly, le nouveau cycle de Zerbi commence très bien. D'où cette question, les grandes gueules. Doit-on déjà s'enflammer pour cet Olympique de Marseille? Oui ou non? David Douillet.
Non.
Pierre-Ambroise Boss.
Oh, par esprit de contradiction, oui.
Simon Dutin.
Oui.
Walid Acharchour.
Non.
Un, deux, deux. Magnifique. Avant que vous développiez, on va accueillir Florent Germain. Salut Flo.
Salut François, salut à tous.
Salut Flo.
Alors Flo, évidemment, hier, on a envie de s'emballer. On va en parler avec nos GG. Mais est-ce que déjà la patte de Zerbi, qu'on voulait tous voir, est déjà visible sur ce premier match?
Écoute, déjà ce qu'on a vu, c'est que tous les changements de l'été et puis l'arrivée de ce nouveau staff, ça avait redonné très clairement un nouvel enthousiasme à l'OM. Il y avait quand même 5 joueurs sur la pelouse au coup d'envoi qui étaient déjà là la saison passée. Donc il y a eu beaucoup de recrues, mais on va dire que là la moitié de l'équipe était là l'année dernière. On a connu parfois des saisons où les échecs de l'année précédente pesaient un peu encore à la reprise et que certains joueurs avaient du mal à switch. Là, c'est clairement pas le cas. Il y a une fraîcheur qui se dégage, beaucoup de sérieux, beaucoup de plaisir à jouer et le parfum d'une nouvelle aventure. C'est ce qu'a ressenti aussi, avec même un peu d'émotion. Écoutez-le, Roberto De Zerbi.
Sento molta responsabilità.
Je ressens beaucoup de responsabilités. À Marseille, c'est différent de travailler ici que dans d'autres endroits. Et donc, mon staff et moi, nous sommes arrivés très émus. Nous sommes contents. Nous avons fait un très bon match. Nous sommes satisfaits du résultat. Nous sommes contents d'avoir commencé la saison de la meilleure manière possible. Nous pouvons encore beaucoup nous améliorer. Nous pouvons progresser dans la gestion du ballon, nous améliorer dans la pression. Nous avons laissé trop de temps le ballon aux adversaires. Ce sont toutes les choses que nous allons corriger. Mais commencer ainsi est très important.
Voilà, après là où faut pas s'enflammer, être patient, c'est concernant le style du jeu. De jeu, on a vu de belles choses, mais on sait que Roberto De Zerbi, il veut encore plus avoir le ballon. Ce qu'on a déjà ressenti, c'est cette capacité à jaillir très très vite vers l'avant. L'importance de Geronimo Rulli dans la relance, et ça a été le cas sur le premier but de Greenwood qui a magnifiquement pris la profondeur. Et puis ces deux recrues que je viens de citer, il y en aura d'autres qu'on verra petit à petit, puisque Koné, Carboni et Brassier n'étaient pas là, donc c'est quand même prometteur. Mais Rulli et Greenwood se sont vraiment illustrés hier. Ça démarre fort, donc, et au grand plaisir d'un ancien de la maison qui a fait son retour hier. Écoutez Valentin Rongier.
Oui, c'est très fort. Après, le coach l'a bien dit. Voilà, il faut pas se contenter de ça, parce que le résultat, certes, on a marqué beaucoup de buts, mais je pense que on peut s'améliorer, surtout dans les principes de jeu que le coach veut nous transmettre depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va insister, parce que on garde le ballon, mais on est aussi capable de marquer sur les transitions. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais gagner 5-1 à l'extérieur pour le premier match de championnat, c'est un régal.
Voilà, en tout cas dans les rangs de l'OM, il y a un mot d'ordre, c'est encore l'humilité. Il y a juste un stade de 66 000 personnes qui va lui s'enflammer, parce qu'il y a ce OM Reims dimanche qui promet, et le festival de buts à Brest promet un accueil magnifique dimanche prochain pour le retour de la Ligue 1 à Marseille.
Ok Flo, ben écoute, tu restes avec nous hein, si jamais tu veux intervenir, tu interviens dans notre débat. Je vous rappelle la question: est-ce qu'il faut déjà s'enflammer pour l'OM? Et on vous attend au 32-16. Il y a eu un joli oui de ta part Simon, il faut s'enflammer, t'as envie de t'enflammer pour ce Marseille-là?
Voilà, c'est plutôt une envie de s'enflammer, j'entends déjà les arguments. Oui, alors il reste 33 journées, attention, doucement, c'est pas parce qu'ils ont gagné un match qu'il faut s'emballer. Évidemment, je suis ravi de retrouver mon Walid. J'attends avec appétit les arguments de Walid. Mais oui, on a envie de s'enflammer. Pourquoi? Parce qu'on est tous des amoureux de ballon. On était impatients que ça reprenne. On a toujours un œil attentif sur ce que va faire l'OM, a fortiori dans cette saison où le PSG a perdu Kylian Mbappé, machin. Bon, même si moi, mon intuition, c'est qu'ils vont être encore plus durs à battre, mais ça, c'est un autre problème. On a envie parce que il y a ce coach qui intrigue toute l'Europe du foot, qui fait saliver les amoureux de foot, parce que Mason Greenwood, parce que comme d'habitude, les mecs qui enfilent le maillot de l'OM pour la première fois, t'as toujours envie de voir ce que ça donne. Bon, bah, ça a été un carnage, hein. Greenwood, il est exceptionnel. Il est à l'image de ce qu'on pouvait en attendre, en tout cas, de ce que son potentiel pouvait laisser. espérer, parce que oui, on a envie de s'enflammer, parce que c'est l'OM, parce qu'il gagne 5-1 contre l'équipe sensation de la saison dernière, bon, qui certes est passé quand même complètement à côté de son match, et pour qui, là encore, c'est un autre débat, à mon avis, la saison va être compliquée, il va vite falloir penser maintien plutôt que Ligue des Champions, parce que certes, ok, leur gardien a fait un très bon match, mais si tu regardes la physionomie du match, tu te dis pas, ah tiens, Rouli a fait un grand match, donc c'est ça qui a sauvé l'OM. Et parce que il manquait, Flo l'a rappelé, il manque quand même des mecs qui sont censés rendre cette équipe meilleure, redoutable cette année. T'as pas Brassi, y a pas Carboni, y a pas Koné, et ça a été un massacre hier. Franchement, c'est bon, ils sont un peu arrêtés de jouer après le quatrième but. Je crois que De Zerbi a pointé ça en conférence de presse, mais ils sont genre en pantoufle, le mec. Donc en plus de ça, t'as cette espèce de truculent, tu vois, dans les déclarations du manager. Donc oui, si tu t'enflammes pas, je me mets à la place des supporters marseillais, ils doivent être en transe les mecs ce matin, et surtout avant de recevoir, comme le disait Flo, Reims au Vélodrome, pareil, Reims qui passe à côté de son entrée, ça va être le feu au Vélodrome, quand tu sais à quel point il faut sortir rapidement l'extincteur à Marseille. Enfin, encore une fois, ils gagnent 5-1, et pour en terminer par la façon dont j'ai attaqué, ils gagnent 5-1, tu peux me rétorquer que ça ne veut rien dire, mais s'ils avaient pris 4-0 hier à Brest, ce matin, on sera en train de se dire, De Zerbi, erreur de casting, la saison catastrophe, Longoria démission, etc. Donc oui, il faut s'enflammer.
Enflammons-nous, Walid.
Non, mais si c'est juste uniquement l'envie de s'enflammer, si c'est ça la question, on peut avoir envie de s'enflammer, il n'y a aucun problème là-dessus, sauf que est-ce qu'on doit s'enflammer ? Moi, je pense pas, même si l'entrée, elle est parfaite comptablement. Tu te rassures offensivement, tu vas gagner très largement à Brest, donc c'est une très très bonne entrée en matière pour l'OM. En plus, tu as ton numéro 9, ton attaquant ton attaquant et ton gardien qui font un super match notamment. Maintenant, comme l'a dit Roberto De Zerbi, il y a des choses qui n'ont pas été. Pour ceux qui ont véritablement vu le match et qui sont vrais, qui veulent gratter. Non, je parle pas forcément de Simon.
J'en ai vu 70 minutes.
Non, mais je parle de ceux qui nous écoutent. Il y a des moments où, notamment en première mi-temps, Brest a des grosses occasions, des grosses situations, et je trouve que l'OM a fait preuve d'une grande efficacité. En plus, Roberto De Zerbi nous montre que c'est pas qu'un entraîneur qui peut jouer avec ballon, c'est un entraîneur qui peut aussi, sur transition rapide, faire très très mal avec les joueurs qu'il a, et on l'a vu sur la première mi-temps. Voilà, s'enflammer pourquoi ? S'enflammer pour le titre, s'enflammer pour le podium, s'enflammer pour le contenu, le jeu. Moi, je dis juste que c'est très très bien ce qu'a fait l'Olympique de Marseille sur ce premier match. Maintenant, on va attendre la suite. Et comme l'a dit Simon, moi, si hier il y avait eu une défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille, j'aurais pas été à contrario dans le catastrophisme en disant De Zerbi, c'est une pompe à vélo, etc. J'aurais dit bon bah c'est un premier match, faut se mettre en place. Bravo à l'Olympique de Marseille pour ce premier match.
Justement, s'enflammer parce que c'est un premier match. Mais qu'il y avait beaucoup de questions.
Bien sûr, mais
parce qu'il y a eu beaucoup de changements.
En fait, la question, c'est s'enflammer pourquoi ? Pour aller titiller le PSG, c'est ça le côté enflammade pour moi. S'il s'enflammait pour se dire, on est pressé de voir l'Olympique de Marseille la semaine prochaine, là, oui, je te réponds, oui, ça va être, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Mais tu pointes des manques encore.
On le savait avant ce premier match que ça allait être l'une des attractions de cette Ligue 1. Et moi, je suis pressé d'être dimanche soir au Vélodrome. Mais maintenant, s'enflammer pour se dire, c'est bon, l'Olympique de Marseille est devenue une très très grande équipe. Ouais, ouais. Je vais attendre un peu plus.
Je sais pas, peut-être Pierre Lambroise, voilà, il a envie de s'enflammer pour dire que l'OM va devenir une grande équipe.
Il y a un côté humain, c'est pour ça on a tous été au Vélodrome, c'est pour ça qu'on a cette âme. Alors le plus important, c'est qu'eux ne s'enflamment pas pour le coup, parce que en vérité nous ça
compte
pas vraiment.
Je pense qu'ils sont peut-être à l'abri de ça avec leur coach. Mais remettre les pieds sur terre.
Tu parlais du PSG justement, il y a un côté symbolique, ils ont gagné 4-1, les Marseillais ont gagné 5-1 derrière avec la manière, alors que bon le PSG ils ont pris le bouillon pendant la plupart du match, mais à la fin ça s'est joué. Il y a eu un retournement de situation. Voilà, De Zerbi, il a apporté énormément à Brighton. On connaît son histoire et je pense qu'il y a un côté respect des joueurs déjà. Alors moi, je ne m'enflamme pas pour le long terme. Parce que bon, c'est possible qu'il ait une offre d'un plus gros club avant quelques années. Mais voilà, pour cette année en tout cas, moi je pense que la hype peut bien prendre. Et voilà, les premiers matchs pour moi sont vraiment symboliques.
Et puis il y a aussi le paramètre Brest, même si moi je répète, Marseille a vraiment fait un super match. Et c'est vraiment une bonne chose de commencer avec un nouvel entraîneur de cette manière à l'extérieur. Surtout que l'année dernière, l'OM avait des gros problèmes à l'extérieur. Mais Brest... Oui. Ils ont quand même joué sans Pierre Lesmelou, ils ont perdu Brassier, ils ont perdu Mounier, Magnetti était suspendu, ils ont perdu sur une grave blessure Bradley Loco juste avant le match et ils vont le perdre toute l'année. Ils ont joué avec le Cardinal en défense centrale qui est pas un défenseur central, un Amavi qui avait pas fait un match depuis un an et qui est en très très grande difficulté. Donc là aussi,
c'est-à-dire ouais, bien que sûr, il faut voir l'adversaire.
Moi, sur le côté enflammade, encore une fois pour le moi j'ai compris la question pour le titre, pour aller chercher le PSG parce qu'on aime bien faire ces débats-là. Je dis
veut de la concurrence cette ligue.
Ce serait une très très bonne chose. Mais je temporise aussi par rapport à ça. Même si attention, l'OM, ils ont l'équipe qui a le jour J. Et puis c'est pas de leur faute s'il y a des blessés du côté de Brest ou des absents, ou pas de recrues.
Ouais.
Mais c'est
après,
aussi
côté enflammade.
C'est,
encore
c'est
une
aussi
fois,
à mettre en perspective par rapport au thème du jour sur l'enflammade.
Tout fonctionne assez vite dans ce club-là, et notamment on a vu Rouli, il y avait peut-être légitimement des questions sur le gardien.
Il a fait un très gros match.
Greenwood, il y avait aussi des questions sur lui, même si on savait que c'était quand même
si
une super recrue.
Fait un très gros match, c'est
il est déjà là.
Si Rouli fait un très gros match, c'est qu'il y a eu aussi des situations, des occasions brestoises.
Tu lances Kouaï aussi en lui offrant un pénalty. Enfin bref, il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs. David.
Ah. Ouais, tu m'avais oublié.
Mais non, pas du tout, mais tu sais, tu peux intervenir quand tu veux.
Non, mais c'est bon. Le débat était tellement intéressant. Moi, j'ai pas vu le match, j'ai pas pu le voir, j'ai été puni. Voilà, donc j'ai eu que les résultats.
C'est faux. Maintenant, faut lâcher 40 euros, David.
Ouais. Non, c'est même pas
ça. Ah non, c'était Sobin, là, c'était moi.
Sobin, c'est bon.
Voilà, c'est ça. Non, mais j'ai pas pu. Bon,
d'accord.
Je ne veux pas vous raconter ma vie, ça n'a aucun intérêt.
Si.
Simplement, je pense à un truc, parce que vous avez à peu près donné tous les arguments, les pour et contre. Moi, je me dis que, attention, faut pas trop s'enflammer, parce que on a un nouvel entraîneur qui est plutôt réputé pour fabriquer, concevoir des équipes, concevoir des tactiques extrêmement précise et liée sur l'attaque, et que les autres vont s'habituer à ça. Donc là, pour l'instant, il a surpris. Je pense que tout le monde va s'adapter à cette nouvelle façon de manager, nouvelle façon d'organiser les équipes, et que les 5-1, ça va pas durer très longtemps, je pense, c'est mon avis. Le temps que les autres comprennent ce nouvel entraîneur qui arrive dans ce championnat.
Ah oui, d'accord. Mais tu penses que ça va prendre du temps ou pas, justement?
Non, justement, ça va aller très vite.
Ah oui.
Ça va aller très vite.
Okay.
Tout le monde va se réveiller. 5-1, Brest, qui était un des meilleurs clubs français, par rapport à leur résultat l'année dernière, ils vont l'analyser, ils vont le décortiquer, ils vont comprendre, ils vont s'adapter à cette nouveauté qu'il peut être dans la Ligue 1. Et tout ça va revenir à la raison, je pense, assez rapidement.
Alors justement, Flo, puisqu'on l'évoquait dans le débat, est-ce que ils vont être vite remis les pieds sur terre par leur coach? Est-ce que c'est le genre de coach Roberto De Zerbi à dire attention, gare à l'enflammade, il y a du boulot à faire encore, et tu l'as dit d'ailleurs, tout n'était pas parfait hier.
Écoute, franchement, je pense qu'il n'y avait pas d'enflammade du côté des joueurs. Quoi. Il y a eu beaucoup de plaisir, et comme je disais, comme il y avait 5 des titulaires qui étaient déjà là la saison passée, eux n'ont pas oublié ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Donc forcément, il y a eu une communion avec le public. Voilà, il y avait simplement des sourires, mais dans les discours, moi, j'ai senti vraiment aucune enflammade. L'année dernière à Brest, ça avait été un scénario catastrophe. C'est le match qui avait précipité le départ de Gennaro Gattuso, enfin donc voilà, certains s'en sont souvenus, mais après voilà, le mot d'ordre c'était retour au travail. Honnêtement, Roberto De Zerbi, voilà, 10 contre 11 avec le but de Lesmelou en toute fin de match, c'était vraiment l'un des matchs cata de la saison. Voilà, c'est un peu retour au travail. La sensation chez tous les joueurs que l'OM a eu le match parfait, est tombé face à un adversaire qui a laissé des espaces, mais que il y a encore du taf par rapport au style, à la méthode que veut employer Roberto De Zerbi. Donc d'ailleurs, par rapport à ce que dit David, je pense que Roberto De Zerbi, il est pas satisfait à 100% encore de ce qu'il a vu dans le jeu et du style, dans le style qu'il veut imposer. Il y a encore beaucoup de surprises et beaucoup de choses différentes. Donc voilà, c'est pas encore le l'OM De Zerbi 100% qu'on a vu hier à Brest. Donc il y a encore du taf, tout le monde en est conscient, et franchement, personne s'enflamme. Il y a un plaisir, de l'enthousiasme, mais ça s'arrête là.
Ok, Flobin, merci.
Au-delà, François, de la satisfaction générale, après, si tu rentres vraiment dans les cuisines de ce qu'on nous a raconté sur la préparation de Zerbi, forcément, tu as un œil attentif sur les mecs qui rentrent dans le moule de Zerbi, ceux dont il ne veut pas. Tu regardes le journal des transferts dans les canards, machin. On te disait, Harit, il compte pas sur lui. Hier, Harit, c'est un des meilleurs Marseillais. Il donne un caviar à Luis Enrique. Il fait une ouverture pour Greenwood qui apporte le but. Il est exceptionnel hier.
Ça challenge les mecs.
Alors, pardon ?
Est-ce que ça l'a challengé ?
Ouais, mais justement, tu te mets à la place d'Harit justement ces derniers jours. Tu dis, attends, mais les mecs dans les journaux, ils disent que moi, j'ai pas ma place à Marseille, j'ai aucun avenir là. Hier, tu sens la réponse d'un mec qui, lorsqu'il est en pleine forme, on a suffisamment eu l'occasion d'en parler, lorsqu'il a son top niveau, tu dis, mais c'est un gars qui doit pouvoir rendre des services. Un Luis Enrique, moi, je me mets à la place de Longoria dans les tribunes. Luis Enrique, vous vous souvenez, c'est la pépite, il nous avait dit, tu sais, quand il était arrivé. Tout le monde s'est dit, ok, la pépite, c'est un tocard. Il est reparti au Brésil, ouais. Machin. Il revient l'an dernier parce que c'est le radeau de la Méduse. Il faut des mecs qui tiennent à peu près la route. Ils ont l'infirmerie qui est pleine. Bon, Luis Enrique, tu te rends compte que c'est un mec qui, avec le volume qu'il a, le poste qu'il occupe et ce qu'il est capable de faire depuis 6 mois, il te prouve qu'en fait, il peut te rendre des services. Et donc, dans tout ce mix-là, tu te dis, avec les absents, des mecs qui, forcément, sur la ligne de départ, étaient pas forcément concerné, invité au banquet de Zerbi qui s'annonce pour cette saison, tu te dis, tout ça, c'est du bonus en plus pour de Zerbi qui, ce matin, doit se gratter la tête en se disant, bon, bah, finalement, c'est pas mal, dis donc, il m'en manque pas tant que ça, des joueurs. Tous ces mecs-là, je vais aussi pouvoir m'appuyer sur eux. Et à ce titre-là, je pense que c'est un immense motif de satisfaction.
Il y a le point noir de l'après-midi, c'est la blessure de Mbagna.
Qui semble grave, on attend des nouvelles.
Qui est rentré et qui s'est blessé très rapidement et qui est l'option numéro 2 derrière Eli Wahi avec un profil différent et qui en sortie de banc aurait pu être intéressant. Et donc là, tu as pas forcément de backup à Eli Wahi si ça se passe mal.
Il y aura peut-être à nouveau des recrutements. Ouais, on va suivre ça, bien sûr.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en haut lieu, il n'y a pas du tout d'enflammade parce qu'on sait qu'il y a encore une dizaine de jours de travail et de mercato qui vont compter. Il y a une nécessité de faire partir certains joueurs, on l'a dit, et puis il y avait déjà 2-3 recrues souhaitées, sans compter la blessure de Mbagna qui a l'air assez sérieuse. On aura peut-être des nouvelles dans la journée. Là, il doit passer des examens pour son genou, donc voilà, ça bosse aussi en coulisses pour renforcer encore plus l'équipe. Et on se dit pas, c'est bon, on a gagné 5-1, finalement on fera une petite recrue et ça passera. Non, il y a une volonté d'améliorer encore plus l'effectif marseillais.
Donc merci. Ça va, David, on est dans le vrai alors,
voilà.
Oui.
On va pouvoir continuer le débat. En tout cas, on va remercier Flo. Merci beaucoup,
merci
Flo, d'être passé
ce
matin dans les GG. Bon week-end à toi. Dans un instant, on va continuer ce débat. Faut-il s'enflammer avec vous au 32-16? Il y a pas mal de messages aussi sur l'appli RMC Direct Studio. Je vous les lirai dans un instant. 32-16, supporters marseillais, pour nous rejoindre dès maintenant en direct dans les grandes gueules. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet. De retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pierre-Ambroise Boss, David Douillet, Simon Dutin, Walid Acherchour. Dans un instant, ce sera le zapping des GG. Je sais pas si Pierre-Ambroise, tu es au fait de toutes les chroniques et les séquences des GG. Si tu nous écoutes quand même.
Je vais commencer.
Le zapping, c'est le on s'en fout pas. En gros, je te donnerai des infos et puis tu diras si tu t'en fous ou pas. Et si tu t'en fous, t'as pas le droit de parler.
Non, mais voilà. Je te respecte beaucoup trop. Tu vas voir,
c'est rigolo. Au programme, d'ailleurs, on parlera de la suite de la journée de Ligue 1 puisqu'on a beaucoup parlé de Marseille. On va continuer d'en parler dans un instant avec vous au 32-16. Ça sera notamment au programme. Et puis, rien que pour toi, on parlera aussi de Renaud Lavillény qui a fait sa rentrée vendredi. Ça sera dans le zapping. Donc là, tu seras obligé de parler, je pense. Voilà. Mais d'abord, la suite de notre... Oui, on va en parler. On va en parler dans un instant. D'abord, la suite de notre débat, David, sur l'OM. Est-ce qu'il faut déjà s'enflammer? 32-16, pour nous rejoindre. Il y a quelques petits messages. Par exemple, il y a Thierry qui nous dit, contre une équipe qui n'a pratiquement pas changé d'effectif, troisième la saison dernière à la maison, il faut mettre en avant le recrutement de Longoria que vous n'aimez pas. Alors, je ne sais pas qui vise en disant ça, notre ami Thierry. Peut-être
parce qu'hier, t'as été avec
Longoria.
Pas, David, tu n'aimes pas.
Ouais, non, c'est pas ça. C'est que voilà, j'ai émis
des doutes
en réalité sur le mariage entre Longoria et De Zerbi par rapport à un Longoria qui a une incidence extrêmement forte sur le recrutement. Enfin, avant, peut-être que De Zerbi a suffisamment de caractère pour lui imposer ses choix, mais on a vu dans le passé que il y avait des choses qui étaient très étonnantes dans le recrutement de Longoria. Voilà.
Ouais, ça c'est ce que tu disais effectivement hier, mais pour l'instant, c'est vrai que le recrutement, même si ce n'est qu'une première journée, stop top à l'enflammade, on a vu les recrues se montrer. Ça, c'est déjà ultra
après,
positif.
Après, avec des niveaux disparates, on a eu Rouli et Greenwood qui ont fait des très grands matchs. On a Højbjerg aussi dans son rôle de long qui a été aussi très très bon. J'ai trouvé Cornelius par contre en grande difficulté derrière. Il va falloir voir.
C'est vrai que derrière, c'est ce qui pose peut-être le plus problème. Alors après, Roberto De Zerbi, là je te laisse parler Walid parce que t'es aussi spécialiste, tu l'as vu avec Brighton. Ça laisse aussi des espaces derrière, souvent. Enfin, c'est aussi un style de jeu qui est assez efficace, flamboyant peut-être.
Même si hier, vu la physionomie de la rencontre, ils ont plutôt laissé l'initiative du ballon à Brest. Donc, on les a pas vus jouer très très haut, hormis quelques séquences. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas enfermer non plus Roberto De Zerbi comme un entraîneur de tiki-taka qui a le ballon. Il veut la possession, mais il peut aussi parfois essayer d'aspirer l'adversaire pour jouer en contre, comme il l'a fait hier. Mais c'est vrai que sur le secteur défensif, Lirola était aussi en grande difficulté. On retrouve Lirola qui est revenu de certains prêts. Et comme il y avait quelques absents derrière, Merlin a été obligé de jouer au milieu de terrain parce que Koné n'était pas là, Kondogbia a été suspendu notamment. Donc tout ça est encore en rodage, mais c'est intéressant de voir que malgré tout ça, tu gagnes 5-1 hier à Brest.
Ouais. Après, il y a cette question donc qu'on se posait évidemment. Est-ce que attention, hein, je sais que certains vont me dire là pour le coup tu t'enflammes trop. Mais est-ce que cette équipe Pierre-Ambroise de Marseille, tu la vois pourquoi pas rivaliser avec le PSG? Alors. Ok, c'est peut-être trop tôt.
Là, pour le coup, tu t'enflammes trop, mec.
Bah, ils ont perdu un bel attaquant,
en tout cas. Hein. Ils vont devoir faire avec Colomani toute la saison. Moi, j'y crois pas.
PSG, ils ont perdu Ramos.
Donc, ils ont besoin d'un bon mercato, là.
Bien sûr. Mais bon, sur ce qu'on a vu, on peut se dire, en plus, il n'y a pas la Coupe d'Europe pour Marseille. Hein, donc,
c'est surtout ça, en fait. Ouais. Donc, ils jouent que la Ligue 1 et clairement. Là, il y a eu un super début. Faut pas s'enflammer évidemment, mais en fait, il y avait Brassier surtout. Pour moi, c'est la charnière importante. Le gardien était très solide hier. C'était ça.
Ouais, tu rajoutes Brassier, ça peut être intéressant en fait, derrière.
Brassier Balerdi.
T'as un effectif complet.
En plus, Brest, ils sont durs,
les premiers rôles en Ligue 1.
Brest en ces petits salopards à domicile. Hein, donc.
Et encore une fois, la saison où Paris se reconstruit sans Kylian Mbappé, même si encore une fois, moi j'ai l'intuition qu'ils seront plus forts sans lui après quelques semaines de rodage et quelques ajustements. Je pense qu'ils vont être très durs à aller chercher. Mais si encore une fois, après un début de saison comme ça, avec le recrutement qu'ils ont fait, qui a commencé par le type qui s'installe sur le banc avec vraiment des idées, tu sens un leadership naturel, tu sens une autorité, une vision. Longoria, encore une fois, moi que je défends depuis de longs mois, qui a pris des chemins de traverse, mais qui est toujours là et qui tente... en début de saison à chaque fois de faire des choses cohérentes. Je parle de coupler un recrutement et un nouvel entraîneur, des choses qui vont ensemble. Si tu t'emballes pas et si tu te dis pas peut-être que cette saison il y a une fenêtre pour aller chercher le titre encore une fois. Depuis 2010 ils ont pas été champions, donc ça gratte du sabot là à Marseille, et tu sens que au bout d'un moment ils vont finir par profiter quoi d'une ouverture. Ouais, pourquoi alors peut-être
Simon, tu as dit toi-même qu'il y a 33 journées. Je veux dire, ce championnat, c'est pas un sprint, hein, c'est un marathon. Donc, il faut du temps. Alors, ils se posent et ils sont efficients tout de suite, c'est super. Mais Brest, faut comparer ce qui est comparable. Brest sort peut-être d'une préparation un peu plus longue, physiquement, etc. Où les gens sont pas encore dans le coup, sont pas encore à l'optimum de leur capacité physique sur un terrain. Et ils vont monter en puissance. Bah, je trouve que le mot enflammé est un peu fort. Oui, ça donne un bon parfum, mais une enflammade.
Oui, gare à l'enflammade.
Sur les petits matchs, justement, pas sur les gros. C'est comme la Liga, quoi. Donc ça va pas forcément être les confrontations contre le PSG qui vont compter pour gagner la Liga.
C'est vrai que ce qu'on reprochait aux concurrents du Paris Saint-Germain, c'est déjà de pas faire le travail contre les petites équipes.
Déjà dans un premier temps, faire le travail contre les petites équipes. Après, tout dépend pour voir. L'objectif de l'Olympique de Marseille au bout, c'est que
l'objectif c'est avec des champions, c'est le podium.
C'est déjà ça. Dans un premier temps, il faut retrouver ces trois premières places.
Et ça serait un échec de pas y être. Et
exactement, avec les efforts consentis financièrement, les joueurs qui sont arrivés, des joueurs de renom, des joueurs avec des gros CV, et puis un entraîneur qui était quand même courtisé, en tout cas qui avait une hype dans d'autres championnats. Donc oui, le podium pour moi est vraiment l'objectif de la saison. Mais au-delà du mot enflammade, moi, je trouve que ça ouvre quand même des perspectives hyper intéressantes, déjà pour notre championnat, parce que moi, on l'a souvent dit, il y a beaucoup de stars qui sont partis. Si on peut avoir un duel Luis Enrique, Roberto De Zerbi, OM, Paris Saint-Germain, ça peut être un beau feuilleton pour nous, amoureux du foot français. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et puis, on le dit souvent, mais ça marche à la dynamique du début de saison. L'Olympique de Marseille a un match par semaine. Ils ont pas d'Europe cette saison. Donc pourquoi pas un peu comme même si c'est pas les mêmes clubs et les mêmes dynamiques, mais comme Lens l'a fait il y a deux ans, très très bien commencé, et puis après à ce moment-là essayer de tirer la bourre au Paris Saint-Germain, parce que l'année dernière le début de saison avait été compliqué avec la pas forcément comptablement, mais avec le départ de Marcelino, c'est à ce moment-là que il y avait un manque de stabilité, le recrutement qui avait pas été incroyable avec beaucoup de méformes ou de blessures, donc le début de saison est important.
Et puis le oui, il y a le ratage en Ligue des Champions contre le Panal l'an dernier qui laisse des traces dans le dans les médias, dans la vision que tu as de ce début de saison. Encore une fois, moi j'entends Pierre Ambroise qui nous dit attention, les petits matchs, il faut les gagner. Ok, ils passent à côté de leur rencontre hier, Brest. Ok, moi j'ai dit attention, après la saison, tu sais, ce qu'on appelle de la confirmation, machin, après leur saison exceptionnelle, machin. Bon, j'attends de voir combien d'équipes vont en mettre 4 à Brest, tu vois, cette saison aussi. Hein. Il n'est pas interdit de penser que sur ce qu'ils ont gardé de la saison prochaine, ils seront prennent rapidement, ils vont pas prendre des défaites à 4 buts d'écart toutes les semaines, enfin
même à la mi-temps, ça aurait été sévère. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr, par rapport au match,
effectivement, pas à la mi-temps, 3-0, parce qu'il y a 3-1 à la mi-temps, mais le 3-0 était globalement sévère, donc bravo à l'OM là-dessus. Et même, on parle des résultats, même dans le contenu, c'est le côté spectacle, il y avait eu beaucoup de frustration avec Marcelino, parce que on comprenait pas grand-chose à ce qu'il faisait. Il y avait eu un début de saison où ils avaient eu 2 matchs à 10 contre 11 contre Metz et contre Nantes, où ils avaient pas réussi à gagner, ils avaient fait 2 matchs nuls, et ça avait créé beaucoup de crispation, le fait de laisser constamment le ballon, de rien faire avec. Parce que l'OM, les supporters, ils ont besoin d'avoir aussi cette notion-là, de savoir et de comprendre ce que veut faire le coach en allant, tu vois, c'est peut-être impensif, mais le fameux droit au but, quoi.
Ouais, mais d'autant plus quand on te vend un entraîneur qui arrive avec ses idées, sa philosophie, son système de jeu. Donc, c'est ça.
Alors, mais c'est un système de jeu qui va vraiment vers l'avant. On sait qu'ils vont prendre beaucoup de buts, mais justement dès le premier match, ils auraient pu mettre beaucoup de buts et en prendre beaucoup. Là, ils en prennent pas. Il y a quand même une charnière défensive qui fonctionne.
Et un bon gardien, on l'a vu avec Rouli, qu'on retrouve en Ligue 1 après son passage à Montpellier. Monaco a battu Saint-Etienne 1-0 hier soir. On va revenir aussi dans un instant sur la victoire de Lille 2-0 à Reims, et surtout sur ce qui s'est passé sur le terrain pour Angel Gomez, victime d'une énorme blessure, et on vous raconte tout ça dans un instant. La suite du programme de la Ligue 1, Auxerre-Nice 15h, 17h Montpellier-Strasbourg, Angers-Lens, Toulouse-Nantes, et puis Rennes-Lyon à 20h45. Les GG continuent avec donc ce premier zapping de la journée. Restez avec nous, on revient dans moins d'une minute. A tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h44 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, l'émission qui ne s'arrête jamais, même pendant les vacances. Alors elle s'est un petit peu arrêtée pendant les Jeux Olympiques d'ailleurs, on y reviendra à partir de 10h. Est-ce que l'athlétisme est le plus gros flop français de ces Jeux Olympiques? Nos GG vont en débattre, nos GG du matin, Pierre-Ambroise Boss, David Douillet, Simon Dutin, Walid Acherchour, et merci à tous ceux qui nous écoutent également au podcast, toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à retrouver l'émission dès la fin, dès midi, vous avez toutes les séquences de l'émission en podcast. Mais d'abord, c'est l'heure d'un premier zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors voilà, c'est ce que je te disais, Pierre-Ambroise. Le zapping, le principe est simple. Je donne des actus de la semaine. Ça vous plaît, vous pouvez parler. Si tu t'en fous, tu peux passer ton tour. C'est le cas pour tout le monde. L'élan de solidarité à Reims après la grave blessure d'Angel Gomez, le joueur lillois, c'était hier en Ligue 1. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous pas, mais j'ai pas vu le match.
D'accord, je vais te raconter. Walid Acherchour.
Je m'en fous pas du tout.
Et t'as vu le match. David Douillet.
Je m'en fous pas.
Pierre Ambroise.
Moi, je m'en fous pas. Un peu d'humanité, ça fait du bien.
Mais oui, Angel Gomez qui a été percuté très violemment par Koné, le joueur rémois. Il a été transporté à l'hôpital. Les nouvelles étaient heureusement plutôt rassurantes hier soir. Il a même blagué en disant « Est-ce que je joue le week-end prochain ?» Mais tout le monde a eu très peur. Le match a été interrompu plusieurs minutes. Il y a eu des chants aussi de supporters de Reims en hommage au joueur lillois. Maillot a été floqué « Courage Angel » par le stade de Reims, et les deux équipes ont même posé à la fin avec ce maillot. Il y a eu aussi beaucoup de colère de la part de Bruno Genesio, le coach lillois, après le match. Écoutez sa réaction.
Ça a été très dur parce que dès le choc, j'ai compris que c'était grave. Ce sont des choses qu'on ne devrait pas voir sur un terrain de football. Il y a des fautes qu'on peut excuser, celle-ci pour moi, elle ne l'est pas. Donc on a eu très 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 peur. Je voulais que ça aille beaucoup plus vite, la prise en charge, parce qu'en direct, on voit que c'est très grave. Pas besoin d'avoir la VAR ou d'attendre pour faire rentrer les... Voilà. J'étais en colère un peu après tout le monde. C'est dur de voir un de ces joueurs être agressé, parce que c'est le mot. C'est une agression pour moi. Ça a été émotionnellement très dur pour les joueurs, très dur pour nous, le staff. Bravo d'avoir réussi à faire le job, et surtout une grosse pensée pour Angèle, et on est content d'avoir des premières nouvelles qui sont plutôt rassurantes pour l'instant. En tout cas, il est conscient, il a demandé s'il pouvait jouer samedi, donc c'est mon signe s'il a de l'humour en ce moment-là. J'espère que ça ira. Pour moi, le match est secondaire ce soir.
Voilà, Bruno Genesio, c'était hier soir après ce match, la victoire lilloise face à Reims. David, qu'est-ce que tu veux retenir? Cet élan de solidarité dont je parlais, ou plutôt peut-être ce que dit Bruno Genesio, le manque de réactivité des soigneurs?
Oh, c'est deux choses différentes. Moi, je suis rassuré que ce monde du football a un cœur, parce que quelquefois, on a souvent l'occasion d'en douter. Mais je suis pas étonné de ces deux publics d'être dans cette veine-là. Voilà. Et je trouve que je vais faire un parallèle avec ce qu'on a vécu ces derniers 15 jours à Paris pour les Jeux Olympiques. J'ai l'impression que voilà, il y a un vent de bienveillance qui est en train d'être soufflé, peut-être par les Jeux, peut-être ce qu'ont montré les Jeux et les athlètes des Jeux sur l'ensemble du sport français. Ça va nous faire le plus grand bien. Voilà ce que je pense.
Pierre Ambroise.
Oh non, je rejoins totalement David. En fait, on a l'impression quand même de l'extérieur que le football, ça reste compliqué. Il y a quasiment autant d'agents que de joueurs. Voilà, on sait à quel point ça peut être considéré comme de la marchandise. Et donc qu'un coach soit aussi préoccupé par ça en réaction à chaud, c'est vrai que ça fait du bien.
Et puis donc cet élan de solidarité de tous les supporters. Walid, qu'est-ce que tu veux retenir toi de ce qui s'est passé hier?
Non, mais j'ai trouvé ça très très beau, parce que déjà on était très très inquiets par l'état de santé d'Angel Gomez pendant la rencontre, et quand tu vois le discours de Genesio, quand il te dit que le résultat était finalement pas si important, on revient aux bases, quoi, on revient à la base. Et même j'ai trouvé le stade de Reims, parce qu'on a parlé du flocage de maillot, mais il y a eu aussi un des messages très très rapides sur les écrans du stade, notamment en montrant son soutien à Angel Gomez. Donc ouais, c'est des belles images. Il y a pas de rivalité entre Reims et Lille, mais il y a plus d'histoire de 3 points ou pas 3 points. On revient à l'essentiel, et j'ai vraiment aimé.
Et aussi, il faut noter le discours de Lucas Elsner, parce que évidemment, on parle beaucoup d'Angel Gomez, mais Koné qui a fait cette faute malheureuse. Alors, Bruno Genesio parle d'agression. Hein. Il a que 19 ans, et Lucas Elsner, son entraîneur, a dit il faut le protéger, parce que évidemment, il va y avoir un déferlement sans doute de haine sur les réseaux sociaux sur ce joueur.
En 2024, c'est compliqué de faire des fautes comme ça.
Quand on revoit le ralenti, c'est une faute, mais.
Il y va
très très fort sur le duel, surtout qu'en plus en termes de
il y a un
gros écart, mais il vient pas pied avec le pied défoncer. C'est un duel.
Non, mais il était très mal à la fin.
Voilà, exactement. Et on l'a senti très rapidement, limite en pleurs après le duel, en comprenant qu'il avait fait une bêtise. Donc oui, c'est vrai que lui aussi c'est compliqué, ça doit être compliqué à vivre.
On apprécie le ce qu'on appelle le flegme de notre ami anglais, Angel Gomez. Tu vois la réaction derrière, un petit peu de
avec de l'humour,
de légèreté, d'humour. Et en effet, c'est, je pense, ce qui aussi peut dicter l'élan de solidarité, c'est que c'est un mec qui est apprécié. C'est moi, à titre personnel, c'est un de mes joueurs favoris en Ligue 1, et c'est un
très beau joueur,
un joueur de ballon qu'on aime voir, qu'on a vite envie de retrouver sur les terrains.
Et toutes les nouvelles évidemment à retrouver sur rmcsport.fr. Une autre actu dans ce zapping à 9h50, Renaud Lavillenie, tout proche de sa meilleure perf de l'année pour sa rentrée. On s'en fout, on s'en fout pas. Walid Acherchour. Ça veut dire je m'en fous, ça. Ça veut dire je m'en fous.
Répète.
Alors, il s'en fout tellement qu'il n'écoute même pas ce que je dis. Renaud Lavillenie, tout proche de sa meilleure perf de l'année.
Je m'en fous pas,
Convaincu. Simon Dutin.
Il n'ose pas, je m'en fous.
Voilà, il s'en fout pas, David Douillet.
M'en fous pas.
Et Pierre-Ambroise Boss.
Non, je suis même content pour lui.
Renaud Lavillenie qui a donc fait son retour à la compétition, c'était vendredi, il a passé une barre à 5,70 m, Walid, lors d'un concours en Allemagne. D'accord. À 2 cm de son record de la saison, réalisé fin mai en Pologne. Il n'avait pas passé le cut, on s'en souvient, des minima olympiques qui étaient fixés à 5,82 m. Il a regardé des tribunes ces Jeux Olympiques. À noter aussi que c'est Robin Hémig, un autre Français, qui a remporté le concours. Lui, il a passé une barre à 5,80 m, Pierre-Ambroise.
Ah, c'est pas mal, 5,80 m. Étant donné que la médaille de bronze au jeu, c'est gagné en 5,90. Voilà,
c'est 10 cm quand même. Hein. On va aller chercher.
Ouais, bah ça se trouve 10 cm.
Sur Renault, t'es content de le retrouver. Alors même si évidemment, il a fait beaucoup mieux que 5,70 par le passé, hein, mais voilà.
Bah écoute, déjà ça fait plaisir parce qu'il revient de très loin. Voilà, il revient d'une désinsertion du tendon semi-membraneux, je me souviens bien de ce qu'il m'a dit, parce que c'est le, moi j'avais le conjoint, mais lui avait le semi-tendineux juste à côté, et donc voilà, opération très compliquée, on a besoin de 6-7 mois avant de revenir, c'est pour ça qu'il était pas prêt au moment des championnats de France, mais voilà, il a vécu des jeux avec un Duplantis de toute façon au-dessus du lot, ça aurait été compliqué pour lui, il le sait.
C'est sûr.
Et il aurait fallu qu'il soit vraiment dans une forme optimale, ce qui était impossible. Voilà, aujourd'hui 5,70 ça suffit pas pour faire une médaille au jeu. Donc mais bon,
est-ce qu'il peut revenir son meilleur niveau.
Ça, oui, bien sûr, ouais. Il est tellement passionné par le saut à la perche qu'il va revenir, je pense.
Ah oui, David.
Bah moi j'ai confiance en lui.
Il a 37 ans, hein, Renaud.
Renaud, juste pour rappel, il a quand même sauté 6,16 m, les copains, hein, c'est pas rien. Bon, donc c'est quelqu'un qui, en lui, a prouvé qu'il avait toutes les ressources. Maintenant, la blessure, évidemment, c'est le cauchemar de l'athlète, il galère. Pierre l'a très clairement expliqué. Moi, je l'ai vu, on a passé pas mal de temps ensemble sur les jeux, on a pas mal discuté. Il y croit toujours, il a toujours envie de sauter, il veut aller au bout de son histoire, et ça c'est très important. Quand un athlète a le sentiment que il a pas terminé d'écrire sa propre page, il faut aller jusqu'au bout pour pas vivre avec des regrets le restant de sa vie en arrêtant trop tôt. Voilà, et puis ça a été compliqué aussi pour lui, parce qu'il a vécu des tribunes, vous l'avez dit, le record de Duplantis, il l'a même vécu avec ses propres parents, parce que la relation entre les deux est tout à fait particulière. Duplantis, son poster dans sa chambre, c'était Renaud, sa muse, c'était Renaud, son style de saut, c'était Renaud, donc voilà, c'est pas simple, hein. Je pense que Renaud a encore des choses à faire, encore des choses à dire avec une perche, et il est tellement attachant que moi je me régale toujours de le voir sur un concours.
Simon, tu n'as pas le droit de parler, même si ton visage réagit pour toi. Walid, tu as le droit de parler, toi.
Ah, donc le concept c'est que
Olympiques, t'as le droit de parler que si t'as dit que je m'en fous.
Ça fait longtemps que j'avais pas fait les GG, donc j'ai.
Donc là, tu veux pas parler.
Bon, mais tout a été dit. Pierre-Ambroise
Moi, je peux faire une petite digression sur Renault quand même. Il est, en fait, personne ne le sait vraiment, mais il serait normalement double champion olympique 2012 et 2016, parce que le Brésilien en 2016 s'est fait choper pour dopage. Donc voilà, c'est sûrement ça en fait qu'il veut aller chercher une vraie deuxième première place.
Mais moi personnellement, je l'ai vu consultant aux derniers Jeux Olympiques. Je pensais qu'il avait arrêté personnellement. Je pensais qu'il était devenu consultant.
Ouais, bah donc, voilà. Il fait encore de la perche.
Tu m'apprends qu'il
continue.
Il continue.
Voilà.
Bah, c'est une très bonne nouvelle.
Ouais. Je pensais que vous alliez parler d'Anthony Ammirati, mais bon, hein, je suis un peu déçu.
Non, bah vas-y, tu peux en parler hein, si tu veux.
À 300K. Voilà. 300K en 48 heures, voilà.
Rappelle pourquoi.
C'est la nouvelle hype du moment. Parce que voilà, lui aussi, il a deux perches.
Exactement.
Une qu'il utilise, qui sort de son carton.
Voilà, très bien. À 9h54, c'est vraiment parfait. Merci Pierre-Ambroise de rappeler tout ça. Voilà, vous pouvez aller revoir l'image, évidemment, vous l'avez vu, c'est une des images de ces Jeux Olympiques. Tiens, je voulais quand même vous entendre là-dessus, messieurs, puisqu'on a le temps, peut-être, pour parler de la Première Ligue qui oblige les arbitres à déclarer leur club de cœur.
Ça, c'est fou, ça.
On s'en fout, on s'en fout pas. Walid.
On s'en fout pas.
David Douillet.
J'ai pas compris.
La Première Ligue oblige les arbitres à déclarer leur club de cœur. pour qui, pour quel club?
Ah ouais, ils sont fans. Là on s'en fout pas.
Simon Dutin,
on s'en fout pas.
Pierre-Ambroise Boss.
Oh.
Oui, d'accord.
Ouais, on s'en fout un peu.
C'est l'une des nouveautés du championnat d'Angleterre pour limiter les polémiques arbitrales. Les arbitres de Première Ligue étaient tenus d'écrire ils aiment comme club, hein, qui sont les clubs de leur cœur, sauf que cette information sera désormais rendue publique. L'an dernier, lors de Nottingham Everton, l'arbitre préposé à la vidéo n'avait pas appelé l'arbitre central pour de potentiels pénalties en faveur de Nottingham. Or, le club de Nottingham était un concurrent pour le maintien du club de Luton, cher au cœur de cet arbitre vidéo. C'est le club de Nottingham d'ailleurs qui avait révélé au grand public les liens entre cet arbitre et le club de Luton. Donc c'est pour éviter les polémiques qu'on fait ça, Simon.
Ouais, je trouve ça un peu grotesque parce que d'une part c'est insulter la probité des arbitres quand tu fais ce métier, que tu t'es cogné les dimanches. Non, mais parce
c'est pour éviter les polémiques.
Avant d'arriver
Simon.
En première ligue, comme tous les arbitres en France partout, tu t'es cogné le district le dimanche matin dans la bouillasse, les insultes, les menaces, les machins. Donc il y a quand même un côté sans te survendre, tu sais le destin, tu vois de l'arbitre. Il y a quand même un côté oui profession de foi. Je veux dire, tu te retrouves pas à ces altitudes là par hasard. Parce que tout d'un coup, tu t'es réveillé en disant « Oh, je veux être arbitre ». Donc, je veux dire, c'est le fruit d'un long circuit. Donc, d'une part, je pense que c'est insulter leur probité. Et d'autre part, en Angleterre encore plus qu'ailleurs, avec la culture foot qui irrigue mais toutes les pans de la société, en fait, on sait, on savait déjà, tous les arbitres qui officient en Première Ligue, on sait déjà quels sont leurs clubs favoris. Donc, je pense que c'est vraiment une mesure un peu paillette, histoire c'est de la com et ça va pas changer grand chose. Les arbitres, ils le savent. Il y a des mecs qui décident qui arbitre quoi généralement et oui, ils donnent pas leur équipe favorite, non, leur équipe ONI à arbitrer.
On en avait un peu parlé dans l'after parce qu'on disait qu'en Ligue 1, les arbitres étaient référencés par rapport à leur ligue. Donc d'habitude c'est leur ville d'origine. Mais qu'il y avait un peu des contre-exemples parce que
tu peux être fan de Marseille en étant né dans le Nord, par exemple.
Exactement. Mais je disais que si ça arrive en Ligue 1 et que derrière un fan de Marseille entraînait Marseille en étant arbitre à Marseille en étant assimilé à la Ligue de Paris par exemple, ça pourrait causer des problèmes derrière si sur un gros match. Il y avait un litige notamment sur les réseaux sociaux aujourd'hui sur les réseaux ça va très très vite.
Après je sais pas si on peut comparer avec l'Angleterre parce qu'il y a une vraie culture du supporterisme en Angleterre et même les arbitres peuvent être ultra fans de leur club.
D'accord,
donc,
OK, mais est-ce qu'on
le débat c'est ce qui imagine pas un arbitre fan forcément
le débat c'est est-ce que ça peut se transposer en France quoi si en France tu fais ça moi je pense que ça peut. On parlait du joueur de Reims là, je pense qu'il y a des arbitres qui peuvent prendre cher sur les réseaux sociaux par exemple.
Ouais mais bon, c'est justement pour éviter les polémiques, David.
Moi je pense qu'au contraire, ça va créer des polémiques.
Ah ouais.
C'est une énorme bêtise. Ah ouais, c'est une énorme bêtise de l'avoir rendu public. Ouais. Que tu le gardes en privé dans ton management des arbitres pour les positionner sur tel ou tel match par rapport à leur sensibilité personnelle sur des clubs, je le comprends, mais que tu le rendes public, c'est alors là tu ouvres la porte à tous les commentaires, tous les esprits tordus et compliqués et machiavéliques du monde du foot, sans citer personne, qui vont te trouver des résonances, des effets de bande, etc., etc., sur tel arbitre par rapport à tel endroit, par rapport à telle décision. Ça va être l'enfer. Je trouve que c'est une énorme bêtise. Ça va être une énorme source de créer des choses qui forcément n'existent pas, je pense.
Alors ok, c'est dit. Il y aura un autre zapping dans une heure. On ira d'ailleurs sur les routes du Tour de France Femmes pour la dernière étape aujourd'hui des Françaises qui sont d'ailleurs toujours en course pour la victoire finale. Mais tout de suite, c'est le bras de fer des GG autour des Jeux Olympiques. Est-ce que l'athlétisme est le plus gros flop français de ces Jeux Olympiques? On vous attend au 32-16 pour nous dire ce que vous en pensez. Restez avec nous, les GG reviennent tout de suite sur RMC dans moins d'une minute.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.